ancien donc dans une église évangélique, le temple évangélique à Carpentras.
Ah oui.
Et aussi très impliqué avec Jean-Luc Pillon dans l'implantation de l'église à Isle-sur-Sorgue. Voilà. On est heureux que tu sois avec nous.
Voilà.
Et on va se mettre à l'écoute de la parole même.
C'est plus facile quand on lit la Bible de l'endroit. Alors je vous invite à peut-être ouvrir vos Bibles dans l'Évangile de Luc, au chapitre 18. Je vais faire la lecture. Alors, chapitre 18, verset 18. Excusez ma voix un peu qui déraille, mais ça, c'est la saison, hein. C'est la saison du pollen et des tous. Alors, Luc 18, verset 18. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Alors, c'est la seconde 21, la version. Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. » J'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse, dit-il. Après avoir entendu cela, Jésus lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, l'homme devint tout triste, car il était très riche. Voyant qu'il était devenu tout triste, Jésus dit, « Qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. En effet, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Ceux qui l'écoutaient dirent, « Qui donc peut être sauvé ?» Et Jésus répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Pierre dit alors, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause du royaume de Dieu sa maison ou sa femme, ses frères, ses parents ou ses enfants, sans recevoir beaucoup plus dans le temps présent et dans le monde à venir, la vie éternelle. » Je vous invite à un moment de recueillement. Seigneur notre Dieu, merci parce que ta parole est la vie, qu'elle procure la vie. Et nous te demandons de nous parler ce matin au travers de ta parole. Seigneur, merci parce que tout ce que tu as à nous dire nous concerne. Et nous voulons vraiment nous laisser transformer par la puissance de ta parole et la puissance de ton esprit. C'est notre désir ce matin. Alors, parle à nos cœurs, nous t'en supplions, au nom de Jésus. Amen. Voilà donc un texte un peu particulier. Et pour le resituer dans le contexte, c'est un moment où Jésus marche vers Jérusalem. Il sait qu'il va y être rejeté et il sait qu'il y va aussi pour mourir. Et nous le voyons un peu plus loin, au verset 31 de ce même chapitre. Et il aborde à plusieurs reprises le thème du royaume de Dieu, et notamment les conditions et la qualité de foi nécessaires pour y entrer. Alors, la qualité de foi, donc l'humilité, il traite cela au verset 9 à 14 du même chapitre, où il est question du pharisien et du publicain, le pharisien qui se flatte d'avoir une vie exemplaire et qui se compare à ce publicain, et puis le publicain qui est là tout repentant et conscient de son besoin du Seigneur. Et puis la foi simple aussi, donc au verset 17, 15 et 17 de ce même chapitre, où il est question que le royaume est reçu comme les petits-enfants, la foi des petits-enfants. Et le contexte est identique dans les autres évangiles où il est question de ce personnage, cet homme qui rencontre Jésus, pour lui demander comment avoir la vie éternelle. Dans l'évangile de Marc et aussi dans l'évangile de Matthieu, juste après l'accueil des petits-enfants. Alors, ma méditation ce matin va être en trois parties. La première partie, c'est l'homme qui veut gagner son salut. Un homme qui veut gagner son salut. Verset 25. « Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» Et Jésus de lui répondre, « Pourquoi m'appelles-tu bon ?» lui répondit Jésus, « Personne n'est bon, sinon Dieu seul. » Alors cet interlocuteur de Jésus, dans l'évangile de Matthieu, nous est décrit comme étant un jeune homme. Et dans l'évangile de Luc, c'est un chef, un notable. Et puis nous voyons dans l'histoire qu'il est aussi très riche. Voilà donc les caractéristiques de notre interlocuteur. Et puis, quel est le problème de cet homme? Son problème, c'est pour avoir la vie éternelle. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle? Et à la différence des autres rencontres que Jésus a eues avec les pharisiens, et particulièrement les responsables pharisiens, son questionnement semble sincère. C'est vraiment son problème, c'est vraiment son désir. Que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Et même dans l'évangile de Marc, on voit qu'il se jette aux pieds de Jésus. Donc, sincère, une approche sincère. Et puis aussi positive, hein? Bon maître, bon maître. C'est pas rabbi, bon maître. Le qualificatif bon suscite de suite la réponse de Jésus, mais pourquoi m'appelles-tu bon? Eh bien, il voit en Jésus un homme bon qui pourrait lui dire ce qu'il faut faire de bon pour avoir la vie éternelle. Et le Seigneur, par sa réponse, le place devant un dilemme. Dieu seul est bon. Alors si Dieu seul est bon, qui est Jésus? Alors l'implication est incontournable. Hein. Si Jésus est bon, serait-ce qu'il serait Dieu? Et par cette question que Jésus lui fait, il ne se dévalue pas par rapport à sa divinité, mais il conduit son interlocuteur à reconnaître, peut-être à se poser des questions sur la nature de Jésus-Christ. C'est la véritable nature de Jésus-Christ. Et puis, la question, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et on peut comprendre que cet interlocuteur considère le salut comme une récompense à gagner au travers de ses œuvres. Il croit qu'il peut gagner la faveur de Dieu et couvrir ainsi ses péchés. Mais on peut se poser la question, est-ce qu'il a vraiment conscience, au fond, de son péché? Alors Jésus, sans chercher à le contredire de front, choisit une méthode efficace. Il le rejoint sur l'application de la loi dans toutes ses exigences. Peut-être pour mieux réduire à néant la propre justification, la propre justice de son interlocuteur. Quelqu'un qui voudrait faire quelque chose pour gagner le ciel n'a qu'une solution. La mise en pratique continuelle et sans faille de toute la loi divine. C'est ce que nous dit le Lévitique. Vous respecterez mes prescriptions et mes règles. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Et ces paroles sont reprises dans l'Épître aux Romains, au chapitre 10 et au verset 5. Alors, c'est quand même un contraste saisissant par rapport à ce que le Seigneur a enseigné auparavant au sujet de la foi des petits-enfants, qui est évoqué plus haut dans ce même chapitre. Laissez les petits-enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. La foi des petits-enfants. Peut-être on pouvait se sentir un peu gêné tout à l'heure quand il y avait tous les piaillements là, et les des enfants, mais voilà, ils étaient là au milieu de nous, c'est une grâce de Dieu. Donc il faut s'en réjouir. Il faut s'en réjouir. La foi des petits-enfants, la simplicité de demander à Dieu et de lui faire confiance. Ça, c'est la foi des petits-enfants. Alors, Jésus lui dit, tu connais les commandements, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de meurtre, ne vole pas, ne porte pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Et l'interlocuteur de répondre, tout cela, lui répondit l'homme, je l'ai appliqué depuis ma jeunesse. Alors, j'attire votre attention sur ce qu'il dit. Non seulement il les connaît, mais il les applique. Il les applique. Et il ajoute, depuis ma jeunesse. Alors l'homme est manifestement sincère. Et il doit avoir probablement, au regard des autres, une conduite assez exemplaire. Il est même dit à son propos, dans l'évangile de Marc, que Jésus l'ayant regardé, l'aima. C'est fort quand même, hein? C'est fort. Et pourtant, il est victime d'un aveuglement terrible au sujet de lui-même. Il oublie qu'il est, par nature, irrémédiablement pécheur. Nous savons, et nous le sommes tous, Romains, chapitre 3, verset 11, « Tous sont égarés, et le jeune riche aussi, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien. » Il avait, malgré tout, une bonne opinion de lui-même. Celui qui pense avoir tout fait selon la volonté de Dieu se trompe lamentablement sur la sainteté et la personne de Dieu. L'accomplissement d'actions de toutes sortes en faveur de son prochain, c'est pas ça qui sauve. C'est pas ça qui satisfait la justice et la sainteté de Dieu. Et en son fort intérieur, ce jeune homme le sait bien, puisqu'il demande à Jésus comment avoir la vie éternelle. C'est que quelque part, il n'est pas sûr. J'ai appliqué tous ces commandements, tous ceux relatifs à la loi sociale. Alors Jésus va l'entraîner vers ce qui est essentiel, la personne même de Dieu. Alors, verset 22, à ces mots, Jésus lui dit, il te reste encore une chose à faire. Vends tout ce que tu possèdes, distribue le produit de la vente aux pauvres, et tu auras un trésor au ciel. Puis, viens et suis-moi. Donnez aux pauvres, ceux qui sont faibles, ceux qui sont marginalisés pour des raisons matérielles, sociales ou spirituelles. La loi le prévoyait. Dans le Deutéronome, il était question de donner aux pauvres, de faire bon accueil. Donne-lui généreusement et non à contre-cœur, disait le Deutéronome. Et rien ne nous permet de penser que cet interlocuteur était avare, qu'il n'était pas généreux. Mais ce n'est pas sur le chemin de la générosité que Jésus veut l'amener, mais sur celui de la consécration. La consécration. Tu veux encore faire quelque chose? Eh bien, vends tout. Vends tout. Et tu prendras peut-être conscience qu'actuellement, ton trésor, ton cœur, n'est pas au ciel. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ton cœur, où est-il? Où est-il? Dans tes richesses? Que sont tes richesses pour toi? Ton idole? Ton Dieu? Or, que dit le premier commandement? Tu n'auras d'autre Dieu que moi. Pas d'idole. Donc, est-ce qu'il respectait tant les commandements que ça? J'en doute. J'en doute. Celui qui pêche contre un seul commandement pêche contre toute la loi. Tu ne respectes pas le premier commandement, tu ne respectes pas la loi. Et Jacques qui dit ça. Au chapitre 2. Jésus a mis le doigt sur l'idole cachée dans le cœur de cet homme. Et cette idole lui barre le chemin vers Dieu. Et l'empêche de tout laisser pour suivre Jésus. Alors, verset 23, quand l'autre entendit cela, il fut profondément attristé, car il était très riche. Il vient de réaliser que son application de la loi est insuffisante et ne peut pas le sauver. En le voyant ainsi abattu, Jésus dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et là, le Seigneur utilise une figure de style qui permet par une exagération de produire un effet percutant. Il est tout à fait impossible à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Et il est quasiment certain que le Seigneur voulait parler là non pas d'une difficulté, mais plutôt d'une impossibilité. Et pas que pour les riches. Et pas que pour les riches. Alors pourquoi ? Eh bien parce que la séduction des richesses et le désir de les amasser accaparent toute la pensée et l'énergie de ceux qui en sont possédés et s'opposent à la recherche du Seigneur de tout son cœur et de toute son âme. La richesse aussi amène une sécurité entre parenthèses illusoire. La richesse apporte cette sécurité illusoire et elle est contraire à une confiance totale en Dieu, selon l'image des petits-enfants, selon l'image de la foi des petits-enfants. Et puis bien sûr, le statut social qui va souvent de pair avec la richesse. Il est dit que c'était un notable, c'était quelqu'un de bien au regard de la société, s'accorde mal avec l'humilité que l'on accorde aux petits-enfants. Alors voilà donc quel est le problème de cet interlocuteur. Un cœur partagé, enchaîné à ses richesses. Voilà, c'est là le portrait. Alors, j'arrive à ma deuxième partie de la méditation qui concerne le Dieu qui sauve. Versets 26 à 27. Alors les auditeurs commencent à s'écrier, mais alors qui peut être sauvé ? Qu'est-ce qui surprend et étonne les personnes présentes ? Pour les contemporains de Jésus, la richesse était une marque de l'approbation divine. Selon l'Ancien Testament, Abraham était béni et il était un homme riche. Et ça permettait, au fond, cette richesse, cette bénédiction de Dieu, cette opulence, permettait de plaire davantage à Dieu en faisant de nombreuses aumônes. La bénédiction de Dieu est manifestée dans leur manière de, par une abondance de biens et de richesses. Donc, dans ces conditions, les personnes riches pouvaient paraître mieux placé pour aller au ciel que les autres, que les indigents. Mais la parole de Jésus démolit complètement cette conception du salut, cette conception de la bénédiction de Dieu. Personne ne peut gagner la faveur divine au point de mériter l'entrée au ciel. Et on ne plaît pas davantage à Dieu en faisant beaucoup ou en donnant beaucoup. Et il y a cette parole de l'apôtre Paul dans l'épître aux Corinthiens, pour ceux qui se flattent de tout ce qu'ils peuvent donner, avoir, apporter, pas qu'au point de vue sonnant et trébuchant, mais peut-être aussi au niveau des dons et des talents que l'on a et qui peut constituer pour nous une sorte d'orgueil. Donc 1 Corinthiens au chapitre 4 et au verset 7. En effet, qui est celui qui te distingue ? Qu'as-tu que tu n'aies pas reçu ? Et si tu l'as reçu, Pourquoi faire le fier comme si tu ne l'avais pas reçu? Alors, soyons prudents quant à nos échelles de valeur que nous pouvons avoir des uns et des autres. Tout don ou tout privilège que nous pouvons manifester, recevons-le comme nous l'avons, prenons-le comme nous l'avons reçu de Dieu et n'en faisons pas un objet quelque part, ou une raison quelque part d'orgueil. Il est donc clair qu'il est impossible pour qui que ce soit d'être sauvé par le mérite de ses propres œuvres. Alors qui peut être sauvé? Alors la réponse de Jésus, elle nous rassure. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alors c'est rassurant. Dieu seul est celui qui sauve. Dieu seul est celui qui sauve. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie ou ne puisse s'en vanter. Et c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. C'est lui seul qui peut incliner même le plus riche des hommes à chercher à investir un trésor dans le ciel. Jésus-Christ seul peut libérer le riche de l'esclavage de ses richesses et combler son cœur au point de lui faire changer l'ordre de ses priorités. Bien sûr, il faut accepter de recevoir le Seigneur dans sa vie. Le message est clair. Alors, il en est de même pour nous. Il en est exactement de même pour nous. La promesse de Jésus, troisième partie de cette méditation, versets 28 et 30. Et Pierre dit alors, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Nous avons tout quitté. En fait, ce « tout » ne représentait que peu de choses du côté de Pierre, mais quand même, sa barque, ses filets. Mais pour Pierre, c'était tout. C'était tout. Et Jésus considère avec bonté ce qu'il a laissé et ne lui fait aucun reproche. Et il a répondu à l'appel de Jésus et il l'a suivi. Il a suivi quand il a entendu le Seigneur lui dire « Viens et suis-moi ». C'est un appel que le Seigneur Jésus nous fait encore à nous aujourd'hui. « Viens et suis-moi ». Et c'est l'annonce la plus succincte mais la plus claire de l'Évangile. La bonne nouvelle qui mène au salut. Elle est adressée à l'homme riche, mais aussi à nous. Viens et suis-moi. Que faut-il faire pour être sauvé, pour avoir la vie éternelle? Il faut venir à Jésus, l'accepter tel qu'il s'est révélé et le suivre comme disciple. Toute la vie chrétienne se résume à cet appel du Seigneur. Viens et suis-moi. Je pense que la plupart d'entre nous, nous avons répondu à cet appel. Et parfois, on arrête de le suivre. Ou momentanément, ou peut-être, je ne dirais pas définitivement, mais pour un long moment. Mais l'appel reste, viens et suis-moi. Et c'est pour une raison ou pour une autre, nous avons interrompu de suivre. Il est temps de se remettre en route. Il est temps de reprendre le chemin pour suivre le Seigneur Jésus. Viens et suis-moi. Et puis il y a cette promesse du Seigneur. Je vous le dis en vérité. Personne n'aura quitté à cause du royaume de Dieu sa maison, sa femme, ses frères, ses parents ou ses enfants sans recevoir beaucoup plus dans le temps présent et dans le monde à venir, la vie éternelle. À cause du royaume de Dieu. À cause du royaume de Dieu. Pas pour nos convenances personnelles, hein, mais pour répondre à l'appel de Jésus-Christ. On ne suit pas le Seigneur pour fuir une situation qui nous embarrasse. Pour fuir. Mais des fois, on se lance dans une aventure de qui peut paraître très spirituelle. On va partir en mission, pas forcément parce qu'on a reçu l'appel d'aller en mission, mais parce qu'on veut peut-être, fuir quelque chose qu'on n'a pas envie de vivre en ce moment, une responsabilité qu'on a qu'il faut quand même mener au bout. Ça peut arriver. Il faut que ce soit le Seigneur qui nous appelle, si on doit partir en mission, ou si on doit suivre un ministère, ou... Voilà. C'est pas une fuite, hein, de suivre le Seigneur Jésus, c'est pas une fuite. Dans l'évangile de Marc, nous voyons même que, à toutes ces bénédictions, le Seigneur rajoute cette promesse, enfin, toute cette liste de promesses, le Seigneur rajoute aussi avec des persécutions. Bon. Dans les pays où sévit la persécution pour les chrétiens, suivre Jésus peut souvent signifier pour le chrétien la séparation d'avec sa famille. Jésus promet la vie éternelle, certes, mais aussi une nouvelle famille, l'Église. L'Église est une famille. L'Église, c'est le corps de Christ. C'est une promesse. Oui. Vous êtes une bénédiction pour ceux qui sont à côté de vous. Faites partie de cette promesse que Dieu nous dit, nous donne. Plus que ce que nous avons. Cette idée peut nous paraître excessive, mais elle est réelle et précieuse pour ceux qui sont dans la persécution, qui sont obligés de quitter leur famille, qui sont obligés de s'isoler. Alors, j'aimerais maintenant aborder une conclusion, une application. Inconsciemment, par nature, notre orgueil peut nous pousser vers le légalisme, à nous demander « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Et la réponse du Seigneur est claire et nette. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de vous. Vous n'allez pas gagner le salut. Vous n'allez pas gagner le salut. Le salut nous est acquis par l'œuvre du Seigneur Jésus. Alors, c'est rassurant quand même. C'est rassurant. Mais de temps en temps, on peut l'oublier. On peut l'oublier. Alors, surtout, ce n'est pas par nos œuvres, afin que personne ne s'en vante. La deuxième application, est-ce que Dieu demande à chaque chrétien de tout vendre et de tout donner, de la même manière qu'il l'a dit pour le jeune homme riche? Bon, je ne pense pas. Je ne pense pas que c'était le but, en réalité. Le but, c'était de révéler qu'est-ce qui comptait dans le cœur de ce jeune homme. Et effectivement, ça a été révélé, ça a été manifesté, et il s'en est rendu compte, ce jeune homme. Alors, c'est pas un problème d'être riche et d'être un disciple de Jésus. Mais il y a quand même des indications, et je vous ferai juste mention de ce que Paul dit dans sa première épître à Timothée. Aux riches de ce monde, ordonne de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant qui nous donne tout avec abondance afin que nous en jouissions. Il n'y a pas forcément antagonisme si on a des biens et le fait de suivre le Seigneur Jésus, pourvu que nous mettions les bonnes priorités au bon endroit. Ordonne-leur de faire le bien, d'être riches en belles œuvres, de se montrer généreux et prêt à partager. Le Seigneur ne m'a pas encore demandé de vendre ma maison à Velleron, mais il m'a demandé d'exercer l'hospitalité, de l'ouvrir, qu'elle fasse partie du témoignage de ce qui est ma vie et ma consécration au Seigneur Jésus. Je suis content, j'ai une bonne voiture depuis peu. Elle marche bien, on a fait le voyage ensemble pour aller à Evian, une bonne routière. Mais c'est pas ma voiture. Si, il y a mon nom sur la carte grise. Mais elle est avec moi pour le Seigneur. Elle fait partie de cette réponse. Viens et suis-moi. Voilà une manière de pouvoir envisager, de placer nos biens dans les bonnes priorités. Nous rappeler que la prospérité matérielle et le confort ne sont pas l'épreuve des preuves de l'approbation divine. Et c'est vrai. C'est pas parce que nous avons beaucoup que le Seigneur nous approuve plus. Il ne faut pas considérer. Il faut vraiment changer notre échelle de valeur. Vraiment changer notre échelle de valeur. Alors quand même, suite à la conclusion de ce message, il est quand même bon pour nous de nous poser la question. Quelle idole cachée y a-t-il dans ma vie qui m'empêche de répondre à l'appel de Dieu, à l'appel de Jésus? Quel faux alibi je me donne pour rester dans mon coin et ne pas aller dans la direction que le Seigneur me demande. Me demande. Peut-être que nous avons cette réponse comme certains qui ont été appelés par Jésus. Permets-moi d'abord d'aller saluer mes parents. Permets-moi d'abord de m'occuper de ceci. Permets-moi d'abord. Moi d'abord. Jésus d'abord, le Seigneur d'abord, pas moi d'abord. Alors voilà, est-ce que je voudrais ce matin que nous puissions tous entendre cet appel de Jésus, viens et suis-moi. Amen.